Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. C'est Jeudi Noir qui commence avec, vous allez comprendre pourquoi, c'est encore José qui nous fait des blagues. Donc on en a marre, on pense qu'on va l'exclure à l'issue de l'émission. Non, on ne pourra plus faire l'émission, mais bon, c'est pas grave, au goulag. Donc là vous venez d'entendre un morceau de Doudou NDI, Rose et Le Bagad.
je ne sais pas ce que c'est, ça va être un truc encore étranger, genre breton. Oh. Et le nom de ce truc, c'était Men Antan, et ça veut dire l'homme rouge. Et c'est parce que José est facétieux, et ce soir, on va vous parler de quoi ? Ben justement, de la fin de l'homme rouge. La fin de l'homme rouge, qu'est-ce que c'est ? C'est un roman ? Un roman. On va discuter, on va en discuter parce que c'est compliqué de dire que c'est un roman. De Svetlana Alexievitch, alors on a pris une inconnue totale, hein, n'est que prix Nobel de littérature en 2015. Donc habituellement, on vous parle de gens qui sont quand même vachement plus célèbres. Hein. Mais
il faut donner sa chance à chacun.
Mais il faut donner sa chance à chacun. Voilà. Elle n'est que prix Nobel. On s'est dit, c'est une petite autrice de rien du tout, qui n'est pas connue. Et voilà, on va en parler. Et donc c'est un roman que Jean-Mathias m'avait conseillé. Un récit que Jean-Mathias m'avait conseillé. Que j'ai lu, Jean-Mathias l'a lu aussi, tout ça. Donc là, c'est exceptionnel. Nous sommes deux à avoir lu le livre. Donc je pense qu'on va pouvoir s'engueuler. Et c'est sous-titré « Ou le temps du désenchantement ». Et c'est une espèce de chronique, enfin c'est des chroniques de la fin de l'Union soviétique dans les années 90 et du début de l'ère Poutine dans les années 2010. Alors pour nos auditeurs jeunes, si jamais ils existent, qui n'ont pas connu l'Union soviétique, il faut rappeler que pour les auditeurs vieux et les animateurs vieux comme nous, nous avons grandi finalement à l'ombre de la guerre froide. Et avec aussi l'idée que peut-être il y avait un pays où les ouvriers étaient heureux. Enfin, moi, c'est un peu comme ça qu'on m'a élevé. Et ce pays, l'Union soviétique, a disparu d'un coup, corps et bien, de façon extrêmement surprenante pour beaucoup d'observateurs, même quand ils étaient jeunes à l'époque, comme nous. Elle a disparu de façon très très brutale, alors qu'on imaginait que c'était quelque chose de presque inamovible. Et au bout du compte, malgré toutes les critiques qu'on pouvait faire de l'Union soviétique, le monde s'est pas forcément trouvé beaucoup mieux après. Et donc là, il y a...
Sauf en Russie quand même, mais bon.
Oui et non, ils ont perdu 10 ans d'espérance de vie. alors après, tu vas me dire que peut-être, effectivement, l'espérance de vie, c'est pas essentiel. Mais bon, je sais pas, moi j'aime bien ma vie, donc j'en veux pas qu'elle s'interrompe 10 ans plus tôt que ce que j'ai prévu. Alors bon, après, mais tu vas dire mes prévisions, hein, on en fait ce qu'on en peut, mais... Et puis en plus, Yeltsin et Poutine, c'était pas forcément non plus une sortie de l'Union soviétique. Bref, donc c'est un livre assez touchant parce qu'il touche plusieurs générations. Et cette femme va interviewer tout un tas de soviétiques, on va dire ça comme ça, d'homo soviéticus. Et leur demander ce qui, en fait, laisse parler, on a l'impression. Que ça... Alors, c'est un objet littéraire un peu compliqué.
Ouais, ça, il faut en dire deux mots quand même, je pense, Alors, c'est propre à son travail d'écriture, ouais, à Svetlana Alexievitch.
Tous les bouquins les écrit comme ça.
Ouais, qui, elle, est d'origine moitié ukrainienne, moitié biélorusse. Et qui écrit toujours ses bouquins de la même manière, c'est-à-dire à partir, dit-elle, d'enregistrements audio qu'elle retranscrit ensuite. Donc l'idée, c'est d'avoir une espèce de récit qui est une forme de document, presque de documentaire, hein, c'est un récit quasi documentaire, où elle présente très rapidement, là en l'occurrence dans La fin de l'homme rouge, le profil de la personne dont elle retranscrit le propos en quelques lignes, hein, donc c'est planté très rapidement, et après effectivement on a une retranscription qui est censée être fidèle, donc ça fait une espèce de galerie de portraits, on pourrait dire, hein. Et là je sais pas combien il y en a peut-être une quarantaine, une cinquantaine
dans ces eaux-là,
dans ces eaux-là. Et donc ça donne, c'est une espèce de documentaire fresque, on oui. pourrait dire, hein, une fresque documentaire, quelque chose comme ça.
Un roman choral, parce que t'as beaucoup de voix contradictoires souvent.
Exactement, ouais.
Qui explorent
Différentes perspectives,
sur la fin,
événement, sur une époque.
Sur la fin de l'Union soviétique.
Alors c'est en même temps ça donne du coup une construction qui est assez efficace. Alors il y a un point, on le dit tout de suite parce qu'effectivement ça nous a gênés tous les deux, c'est que du coup elle disparaît, hein, en tant qu'écrivain en fait dans le texte.
Elle apparaît dans certaines didascalies, des espèces de mentions en didascalies en théâtre, ouais. Dans le texte écrit vous avez du type le personnage disparaît sous un meuble, et là de temps en temps elle dit là j'interromps magnétophone ou ce genre de truc, mais autrement. Parfois elle dit là j'ai pleuré avec elle. Parfois la personne à qui elle parle l'interpelle. Elle dit je vois que vous êtes vous aussi de la génération des cuisines.
Voilà.
On vous expliquera peut-être après la génération des cuisines. J'ai trouvé ça assez magnifique.
Ouais.
Donc c'est vrai que le statut de l'auteur et le statut du texte est assez assez étrange.
Oui, parce que du coup, c'est le seul point qu'on peut lui, mais la seule question qu'on peut soulever, c'est que du coup, ça, le récit a une espèce d'effet de réel très fort, parce qu'on a des personnes en chair et en os qui parlent, hein, qui sont là. Et donc ça, c'est un effet de réel très très fort, ça, documentaire quasiment. Et en même temps, je trouve qu'il y a un niveau d'écriture qui est époustouflant, en fait, il faut quand même le dire.
Malgré la traduction, alors nous, on lit pas le russe. Hein,
mais la traduction, en tout cas, malgré la traduction, effectivement, c'est très impressionnant, hein, le niveau d'écriture et la force des propos, quoi. Alors, tu disais, effectivement, sur la chute de l'Union soviétique, en fait, il y a quelque chose d'un peu... même l'objet est un peu étonnant, parce qu'y compris sur ce qui est raconté, ça brosse un panorama extrêmement large, parce qu'on a, presque une histoire aussi rétrospective de l'Union soviétique, pratiquement depuis le départ. Et il y a des récits évidemment sur la chute de l'Union soviétique, donc 91-92.
Mais ça remonte au moins jusqu'aux années 30.
Avant, parce que tu as des personnages qui te parlent de leur grand-père, de leurs aïeux, et on est pratiquement au début du siècle, hein, oui, du 20e.
Le centre, le début, c'est la chute de l'Union soviétique.
C'est la chute, voilà.
Mais tu as beaucoup de regards rétrospectifs,
flashback,
qui retrace un petit peu ce qu'était l'homme de l'Union, l'être humain sous l'Union soviétique, les hommes et les femmes qui vivaient là-dessous. Là-dessous, parce que c'était un régime qui est décrit de façon. C'est très compliqué parce que il y a à la fois c'est l'utopie et l'horreur qui sont montrés très très souvent du type on nous torturait et on allait sur la lune.
Le cœur du livre,
on a envoyé le premier homme dans l'espace.
Le cœur du livre, c'est quand même l'utopie stalinienne. Oui. Pour moi, c'est quand même le cœur du livre. C'est-à-dire la dimension utopique.
Dimension
utopique du stalinisme, en fait. C'est-à-dire, effectivement, ce qui a été vendu comme fabrique d'un homme nouveau sous Staline. Alors, effectivement, avec des aspects à la fois abjects et sublimes, on pourrait dire. Et du moins tels qu'ils étaient vécus à l'époque. Et il y a aussi, c'est ça qui est intéressant, je trouve, parce qu'il y a ce côté rétrospectif là. Donc ça démarre sur 91-92. Ensuite, il y a une espèce de, par les portraits, une espèce d'histoire rétrospective comme ça de l'Union soviétique, en particulier de la trop longue période stalinienne. Et il y a aussi, alors moi pour le coup, des choses, des incursions après 92, des choses que moi j'ai appris tout bonnement. Hein. Par exemple, au moment de la dislocation de l'URSS, tous les pogroms en fait qui ont eu lieu.
Je l'ai appris aussi, alors on n'est pas historien ni l'un ni l'autre,
mais
je l'ignorais complètement.
Mais bon, y compris du point de vue de la couverture médiatique en Occident à l'époque, moi je veux dire, ce qui s'est passé au Tadjikistan, à la frontière arménienne, en Ouzbékistan, j'ai appris ça en Tchétchénie, c'est plus récent. En gros, ça va jusqu'à la guerre de Tchétchénie, comprise. Comprise, parce qu'il y a des témoignages effectivement d'une mère de milicienne qui meurt à la fin. Mais du coup, ça donne une espèce de panorama assez impressionnant, moi je trouve, parce qu'effectivement, c'est une espèce, comme tu l'as dit, c'est une espèce d'histoire absente, en fait, ça. C'est-à-dire que y a la guerre froide, il y a la chute de l'Union soviétique, et puis après, il y a on sait pas trop, en fait, quoi. Et en fait, la force de ce bouquin, je trouve, c'est en fait de donner la parole à des gens qui sont vivants.
Oui.
À des gens qui sont vivants et qui ont grandi, qui se sont construits, qui ont perçu le monde pendant des décennies sous Staline et sous la période après post-stalinienne, mais sous l'Union soviétique.
Et puis tu as beaucoup de propos rapportés, ce qui donne une espèce de dimension gigogne au récit, qui est très frappante.
Ouais.
Je me rappelle de ce type là qui finit au Canada parce qu'il a fui, la Russie et qui raconte pourquoi il s'est pas marié avec sa première amoureuse. Parce que, justement, pendant la chute de l'Union soviétique, il discutait avec un ancien tchéquiste qui était le père de son éventuelle future femme.
On va lire le passage, parce qu'il est absolument extraordinaire.
Le passage est absolument terrifiant.
Un
témoignage de bourreau qui est rapporté par son potentiel beau-fils qui, en fait, s'enfuit épouvanté de la maison de sa future belle-famille et qui ne pourra même pas renouer avec sa potentielle future femme, juste parce qu'il est épouvanté.
Alors, cela dit, moi je trouve qu'il y a aussi un autre aspect.
On vous parle, on l'a pas redit, mais on vous parle donc du roman de Svetlana Alexievitch, La fin de l'homme rouge.
La fin de l'homme rouge, aux éditions Babel.
Ou Acte Sud,
c'est vrai. Oui, c'est Acte Sud.
C'est Acte Sud, Collection Babel.
Alors, bon, peut-être, c'est difficile de parler de ce livre-là. On va lire des passages après, hein, pour que vous pourrez permettre effectivement de mesurer ça. Mais moi, je trouve que c'est un livre assez fascinant. Alors, il y a peut-être, moi, j'ai peut-être une deuxième petite réserve, mais qui en même temps participe, je trouve, de la qualité du livre. Donc, la première, c'est de savoir où est l'auteur dans ce livre-là, parce qu'effectivement, il y a une espèce de camouflage, en fait, quand même, hein, dans le dispositif. Et deuxièmement, moi, je trouve que ce qui est très frappant aussi, c'est que c'est à la fois quelque chose qui a valeur historique, je trouve, parce qu'on travaille sur du témoignage, mais qui sont des témoignages réécrits, donc on a quand même quelque chose...
Je pense que les historiens du futur vont se prendre la tête avec ce bouquin, s'ils tombent dessus.
Sachant que je trouve que, si tu veux, c'est quand même pas un petit dossier, parce que c'est du témoignage, c'est de la réécriture de témoignage. Quand tu sais ce qu'a représenté le maquillage photographique et de témoignage dans l'histoire de l'URSS, je trouve que c'est assez, il y a une espèce de jeu là-dessus qui est quand même assez intéressant, mais en même temps un peu troublant. Et puis l'autre aspect, peut-être aussi, je trouve, c'est qu'il y a un moment, je trouve que c'est les meilleurs passages. Alors c'est difficile de dire ça, mais il y a des passages où en fait on décolle en fait de l'histoire, je trouve, et où en fait ce qu'on nous parle, en fait, c'est une espèce c'est de l'empire russe, c'est de l'Union soviétique comme un empire et comme une culture impériale et on nous parle de l'âme russe, quoi, de l'âme russe, mais de l'âme
tout
russe à travers les siècles
tout
d'une certaine manière. Et alors c'est beau, c'est même bouleversant à beaucoup d'égards, et en même temps on n'est plus dans l'histoire là, c'est-à-dire qu'on est dans autre chose. Alors c'est une poétique qui est très forte, avec des personnages qui incarnent ça. Une formule que j'aime beaucoup d'un des personnages qui dit, mais vous savez, en fait, on dit souvent, il y a un proverbe russe qui dit qu'en fait, les Allemands fabriquent des vraies choses, et que nous, en fait, la seule chose qu'on sait produire, c'est du tragique. J'aime assez la formule, et c'est vrai que c'est recoupé, c'est confirmé par une bonne partie des personnages qui sont mis en scène dans le récit. Mais c'est la question de savoir comment ça s'articule avec le côté documentaire et avec l'aspect témoignage, justement. Une question qui est compliquée.
Oui. D'autant que là, je vais vous citer un petit passage que j'avais envoyé à un pote parce que je le trouvais trop fort, où elle discute avec un ancien apparatchik du Kremlin qui a refusé de donner son nom.
Ouais.
Et où il dit, il s'adresse à elle et il dit, j'ai lu vos livres. Vous avez tort de vous fier aux gens, là je vous le cite. Vous avez tort de vous fier aux gens, à la vérité des hommes. L'histoire, c'est la vie des idées. Elle n'est pas écrite par des gens, mais par l'époque. La vérité des hommes est un clou auquel tout le monde accroche son chapeau. Et en fait, le récit abonde de formules comme ça, qui sont très fortes et sur lesquelles on peut se casser un petit peu la tête. Du type, vous cherchez la vérité parmi les êtres humains, mais vous ne la trouverez pas. Parce qu'ils vont tous vous donner leur vérité, ils vont tous accrocher leur chapeau dessus. Et puis, au bout du compte, vous ne verrez plus rien. Alors bon, là, on pourrait citer Aristote, on pourrait citer d'autres agricoles, parce que... la métaphysique, au début de la métaphysique, Aristote dit que la vérité, c'est une porte, tout le monde, qu'on peut viser avec un arc, et tout le monde met une flèche dedans, quoi. Le souci, c'est pas ça. Et bon, c'est effectivement, c'est un roman qui a plusieurs dimensions, ouais. Avec cette idée d'aller chercher la vérité parmi les gens, en les interviewant, en les laissant parler. Et à un moment, elle donne 2-3 clés sur sa propre écriture pour répondre à ce que tu disais tout à l'heure.
Ouais,
où elle dit, là, je l'ai re-rencontré un peu plus tard, et quand on discutait, j'ai pas mis le magnétophone, et j'ai perdu le passage. Elle dit, en fait, il faut faire parler les gens jusqu'au moment où ils atteignent la littérature.
Oui, c'est ça.
Et en fait, on a l'impression que... alors, effectivement, elle se masque elle-même, mais elle les fait parler, elle les entraîne dans quelque chose jusqu'à ce qu'ils produisent de la littérature. C'est une idée qui est très étrange.
Oui. Mais qui est un peu discutable aussi.
Qui est un peu discutable aussi,
parce que c'est vrai qu'il y a... Mais bon, après, le résultat est, moi, je trouve,
fructueux.
Mais c'est vrai que c'est discutable aussi, parce qu'effectivement, du coup, y a une espèce, c'est une espèce de faux documentaire, quoi. De faux documentaire, et au fond, avec une conception de la littérature qui est supérieur à l'histoire. Il faut retrouver quelque chose, finalement, qui n'est plus... Et donc, évidemment, du coup, c'est la question des faits, et notamment des victimes, et notamment de la dictature, en fait. De la dictature et de ces millions de victimes. En fait, c'est quand même une des pires dictatures du XXe siècle, si ce n'est la pire. En quantité, il n'y a pas de match. Effectivement, l'habillage littéraire peut parfois être... Et en même temps, en même
ça
temps,
c'est une vraie question esthétique.
Elle donne la parole au bourreau. Elle le dit. Alors peut-être
c'est comme le bouquin Jean Asfeld sur le génocide Lavinu, sur le génocide Rwanda. Hein. Il donne la parole à des survivants, des victimes qui ont survécu. Et c'est les témoignages sont tellement beaux qu'on peut parfois être tenté d'oublier l'horreur qu'il y a derrière. Là, c'est genre de questions qui se posent.
Alors, ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, elle donne c'est le début du livre, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça tourne autour de témoignages qui essayent en fait de raconter la chute. Donc 89 Berlin, et puis 91 effectivement la chute de Gorbatchev et
la
tentative de putsch avortée à l'occasion de laquelle Eltsine arrive au pouvoir.
Et puis le putsch réel de Eltsine.
Le putsch réel de Eltsine, plus tard, même si voilà, et 92, voilà, donc un an plus tard, en fait, de nouveaux putsch soviétiques, là encore, hein, il y a un portrait du général qui mène le putsch conservateur, c'est-à-dire communiste, j'ai noté, on va dire ça aussi. Donc en fait, et c'est essentiellement dans cette première partie, et ça, je trouve que c'est assez rare, en fait, ces témoignages-là, ce sont en fait des petits cadres ou des cadres moyens du parti, hein, des cadres régionaux. Oui. Donc c'est des gens qui autour de 2000 ont en fait une cinquantaine d'années. Donc ils sont nés au milieu des années 50-60, hein, à peu près, et qui eux ont fait carrière et qui en fait donc doivent en fait leur carrière, doivent leur vie en fait à Staline et au stalinisme, pas simplement à Staline, mais au stalinisme, c'est-à-dire au système en tant que tel. Alors dès le départ, en même temps, je trouve qu'il y a des petits signaux d'alerte parce que dès le départ ça littérarise un peu, ça littérarise. Là, je pense à un témoignage qui est vers le début du livre, là, autour de la page 60. Là. Donc, c'est celui d'Elena Yurneva, qui était troisième secrétaire du comité régional du parti, 49 ans. Alors, deux, trois phrases. Hein, voilà. Donc, alors, on parlait de la présence de l'auteur. Donc, alors, il y a une première partie où elle raconte en fait, sa vie, son arrivée au parti, etc. Et puis, nous arrêtons pendant un long moment. Ça, c'est l'auteur qui parle. L'incontournable tasse de thé, cette fois que de la confiture de cerise, préparée selon une recette personnelle de la maîtresse de maison. Et on arrive à 89. Alors, 89, trois petits points. Et là, donc, on est censé être dans le témoignage écrit, restitué. À ce moment-là, j'étais déjà troisième secrétaire du comité régional du parti. Le parti m'avait recruté à l'école où j'enseignais le russe. Mes écrivains préférés, Tolstoï, Tchekhov, trois petits points. Voilà. Donc il y a une proportion de littéraire, oui. De littéraire dans les cadres du parti.
On a l'impression qu'ils ont tous...
Voilà, ils ont tous été biberonnés à la poésie et à la littérature classique russe.
Mais pas que les cadres du parti.
Non.
C'est-à-dire que tous les personnages, tous les gens qu'elle interroge... Ouais.
Mettre
en avant leur bibliothèque et le fait que sous l'Union soviétique finalement la seule distraction c'était de lire des livres et que tout le monde lisait tout le temps.
Tout le monde lisait tout le temps avec cette idée que en fait c'est ce qui avait le plus de valeur.
Oui.
Hein, plus de valeur, c'est-à-dire une espèce d'anti-matérialisme pour le coup, mais d'anti-matérialisme au sens de mépris absolu de l'enrichissement personnel. Alors, je ne sais pas si c'était aussi universel que ça, mais en tout cas, effectivement, statistiquement, là, c'est écrasant. Et effectivement, remplacé par la poésie, l'accès à la culture, à la connaissance de l'âme. Hein, à la connaissance de l'âme, et en même temps, avec l'idée que cette connaissance-là, c'est ça qui est étonnant en même temps. C'est que cette connaissance de l'âme, là, et de la littérature, c'est finalement ça, être l'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est ça, c'est celui qui justement comprend que voilà, qui revient d'une certaine manière à l'âme russe et qui a compris l'espèce de vanité en fait du fric et du capital quoi. Hein. Il y a un côté comme ça. Ça, c'est le vernis ce que j'ai appelé tout à l'heure le vernis utopique du stalinisme. C'est un truc très fort, je trouve, dans le bouquin, hein,
très
qu'effectivement ils en sont.
Parce que t'as aussi énormément de gens qui reviennent sur le fait que quand l'Union soviétique s'effondre, ils changent complètement de monde,
d'échelle de valeurs,
ouais. et qui se retrouvent dans un monde dans lequel ils n'ont plus aucun repère.
Aucun repère.
Absolument aucun repère, parce que leur livre, ils les vendent contre des patates, et les professeurs d'université finissent par vendre des pneus, des jeans et des yaourts, et pour survivre.
Ouais.
Et leurs livres n'ont plus aucune valeur, et tout ce qu'ils ont de valable chez eux, c'est leur bibliothèque, et leur bibliothèque ne vaut plus rien.
Moi, je trouve qu'il y a, alors après, du point de vue du choix, des références, etc., donc il y a évidemment tous les grands auteurs russes, mais tu as quand même un rapport à la littérature qui est une espèce de romantisme, mais alors absolu, quoi.
Oui.
Absolu.
Complet.
Et évidemment, bah, du coup, avec la chute, ça devient des espèces de soviétiques zombies, quoi, des morts-vivants. effectivement, ils sont confrontés à la mafia, aux frics, à des mecs qui arrivent, qui les expulsent de leur appartement, qui les relogent ailleurs parce qu'ils ont des flingues, qui se font buter la semaine d'après. Bref. Bon, oui. Alors, pour continuer
avant
un peu
une pause, peut-être, ouais, avant ouais. de faire un, on va faire un, on va faire une, comme José nous a sélectionné des morceaux super originaux.
Ouais.
On va les diffuser.
Ah, un premier break avant de reprendre sur la fin de l'Homme Rouge.
C'est ça.
I can love you, boy. I can love you, girl. I can love you, poor. I can love you, rich. I can love worker. I can love artist. 'Cause I am la petite communiste. I can love you, boy. I can love you, girl. I can love you, poor. I can love you, rich. I can love you, worker. I can love artist. I can love you, boy. I can love you, girl. I can love you, poor. I can love you, rich. I can love worker. I can love artist. 'Cause I am la petite communiste. I can love you, boy. I can love you, girl. I can love you, poor. I can love you, rich. I can love worker. I can love artist. 'Cause I am la petite communiste. I can love you, boy. I can love you, girl. I can love you, worker. I can love artist. I can love worker. I can love artist.
Vous écoutez Jeudi Noir 89.4 sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste. Vous venez d'entendre un premier morceau de Dr Cosmos, un groupe suédois qui s'intitule de Suède, qui le morceau s'intitulait Le Petit Communiste, et puis ensuite certains d'entre vous ont reconnu les Ludwig 2088 communistes.
C'était l'époque de l'Union Soviétique.
Voilà. Georges Marchais,
voilà. Notre homo soviétique.
J'imagine que tout un tas de gens ont oublié Georges Marchais, mais
bon, mais nous on n'oublie pas.
Nous on n'efface pas l'histoire. Et donc ce soir on vous parle de la fin de l'Homme Rouge, donc de Svetlana Alexievitch, une autrice, comment dire, très peu connue, qui n'a été que prix Nobel
en 2015,
et qui écrit des compile tout un tas de récits de gens qu'elle va voir, et donc on s'interrogeait sur le statut littéraire de cet objet étrange. Voilà, mais c'est un bouquin que vraiment si ce genre de période vous intéresse, et si c'est à lire parce que c'est très puissant. Et donc, voilà, on parlait un petit peu d'un des thèmes qui est la disparition d'un mode de vie, d'une vision du monde incarnée justement sous Staline, et de l'utopie. C'est-à-dire que, Jean-Mathias, tu disais tout à l'heure, et c'était aussi un des aspects de ce livre qui m'avait beaucoup frappé. Parfois je dis roman, parfois je dis livre, justement, ça témoigne un peu de ma confusion face au statut littéraire de l'objet, mais qui est que ça représente aussi l'utopie stalinienne, au sens dans l'association d'un rêve, d'un idéal et d'un cauchemar. Et les deux sont systématiquement mêlés dans les récits, parce que elle va interroger des gens qui ont été soit torturés ou massacrés sous le stalinisme, soit qui vont dire, mais au moins sous Staline, on avait un empire, il faudrait un nouveau Staline, Staline nous a emmenés dans les étoiles, c'est dans cette époque-là qu'on a envoyé le premier homme dans l'espace,
Un thème qui revient aussi très très fréquemment, c'est le thème de ce qu'ils appellent la victoire avec un grand V.
Oui.
La victoire contre le nazisme, qui est fondateur. Et, où vraiment il y a l'idée que c'est eux qui sont sacrifiés pour battre les nazis et que le monde leur doit bien ça. Mmh. Et donc il y a une espèce de mélange assez incroyable où on voit des gens qui disent sous Staline c'était l'horreur, moi je suis une soviétique, j'ai appris à avoir peur, j'ai toujours eu peur dans ma vie et donc chaque fois qu'il y avait un changement j'avais peur et je me disais comment me protéger. Avec tous les vieux soviétiques qui dès qu'il y a un changement en gros font les courses et se planquent chez eux. Ou descendre du bus quand on dit du mal de l'Union soviétique sous Gorbatchev. Donc c'est des gens qui ont été élevés dans la terreur. Mmh. Et on comprend d'ailleurs pourquoi la terreur de stalinienne doit être aveugle. C'est-à-dire qu'il faut aussi torturer les innocents si on veut faire peur à tout le monde. Mmh. Si on arrête que les coupables, ça marche pas. Voilà, si vous voulez s'émeuver de la terreur dans le monde, arrêtez tout le monde ou n'importe qui ou au hasard. Mmh. Ça, vous serez sûr de terroriser absolument la population entière. Et c'est ce que faisait Staline, d'une certaine manière. Et puis, donc, il y a ça, ce côté terrifiant. Et puis, il y a le côté, voilà, on a battu les nazis, on a envoyé le premier homme dans l'espace.
Peut-être un premier petit passage, du coup, là, en lecture. Alors, c'est un peu plus loin dans le livre, où on a, en fait, un communiste qui est resté convaincu.
Ah oui.
Alors, le personnage,
celui-là.
Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup dans le livre. Alors là, c'est de la génération qui a fait la guerre justement. Hein. Tu parlais de la grande victoire. Là.
Ah oui, ce vieux monsieur.
Ouais.
Oh, et qui est terrifiant.
Qui est terrifiant parce qu'en fait, alors c'est Vassili Petrovitch, membre du Parti communiste depuis 1922, 87 ans. Hein. Et donc en fait, il est passé par les purges. C'est-à-dire qu'en fait, sa femme est arrêtée et on veut lui faire avouer que son mari est un complotiste contre-révolutionnaire.
C'est pas un peu l'inverse? On essaie pas de lui faire avouer que sa femme a trahi parce qu'elle a une sœur qui vit à l'étranger.
Exactement, c'est ça, tu as raison. Et en fait, donc sa femme est finalement arrêtée et lui, il part à la guerre.
Parce qu'il est arrêté, il est torturé.
C'est ça.
On essaie de lui faire avouer que sa femme est une traître à la cause.
Voilà.
Et il est libéré, la guerre est déclarée et on ne veut pas l'envoyer au front parce que ce n'est pas un élément idéologiquement
exactement.
Sûr.
Sachant qu'il est cadre.
Il n'est plus à ce moment-là. Et à un moment, il craque, il leur dit, écoutez, soit vous m'arrêtez et vous me descendez, soit vous m'envoyez au front. Et donc, on l'envoie au front.
Alors il raconte, hein, donc 41, donc voilà, donc on n'est pas loin de Stalingrad. On monte au combat, on lui tire dessus avec des mitrailleuses, tout le monde se couche par terre et en plus il y a un mortier qui s'y est mis. Il réduit les hommes en chair à pâté, je me retrouve allongé à côté d'un commissaire politique qui hurle « Mais qu'est-ce que tu fais coucher, espèce de contre-révolutionnaire? Allez en avant ou je te bute !» À Koursk, je suis tombé sur mon juge d'instruction.
Le type qui l'avait torturé.
Celui qui avait été directeur d'école. Je me suis dit... Maintenant, mon salaud, je te tiens, je vais te descendre discrètement pendant la bataille. Oui, c'est ce que je voulais faire, mais je n'en ai pas eu le temps. Une fois, nous avons même discuté tous les deux. Nous avons la même patrie, ce sont ses paroles. C'était un type courageux, un héros. Il est mort près de Königsberg, je peux bien vous l'avouer, je ne vais pas mentir. Je me suis dit que Dieu avait fait le boulot à ma place. Je suis rentré avec deux blessures et trois décorations. On m'a convoqué au comité régional du parti, qui déclare « Malheureusement, nous ne pouvons pas vous rendre votre femme, elle est morte. Mais nous vous rendons votre honneur. On m'a remis ma carte du parti et j'étais heureux. J'étais heureux. »
Ce témoignage est bouleversant, terrifiant, à venir.
Insert de l'auteur, je lui dis que je ne pourrais jamais comprendre cela, il explose. Mais on ne peut pas nous juger selon les lois de la logique, espèce de machine à calculer. Il faut que vous compreniez ça. On ne peut nous juger uniquement selon les lois de la religion, de la foi. Hein ? Vous finirez par nous envier, c'est moi qui vous le dis. Qu'est-ce que vous avez de grand ? Rien du tout, juste le confort, tout pour l'estomac, pour vos 12 mètres d'intestin. Vous voulez vous remplir le ventre et vous entourer de bibelots minables, alors que moi, ma génération, tout ce que vous avez, c'est nous qui l'avons construit. Les usines, les barrages, les centrales électriques, et vous avez quoi ? Nous, on a vaincu Hitler. Après la guerre, la naissance d'un enfant, c'était une joie. Pas la même qu'avant la guerre, non. Ça, c'était autre chose. J'en aurais pleuré. À ça, on avait la foi. Et maintenant, vous venez nous dire qu'on a cru dans une utopie. Mon roman préféré, c'est « Que faire ?» de Tchernychevski. On le lit plus aujourd'hui. Je le trouve ennuyeux. On le lit plus que le titre. L'éternelle question russe. Que faire ? Nous, c'était notre catéchisme. Le manuel de la révolution. On en apprenait par cœur des pages entières. La quatrième rêve de Vera Pavlovna. Il récite comme un poème. Des maisons de cristal et d'aluminium, des palais de cristal, des jardins de citronniers et d'orangers au cœur des villes. Il n'y a presque pas de vieillards. Les gens vieillissent très tard parce que leur vie est magnifique. Tout est fait par des machines. Les hommes se contentent de les diriger. Elles moissonnent, elles lient les gerbes. Les terres sont compactes et fertiles. Les fleurs sont aussi grandes que des arbres. Tout le monde est heureux, gai. Tous portent de beaux vêtements, les hommes comme les femmes y mènent une vie libre, une vie de labeur et de plaisir, il y a assez d'espace et de travail pour tous. Est-il possible que ce soit vraiment nous ? Est-ce vraiment notre planète ? Et tous vivront ainsi ? Un avenir radieux et magnifique. Fermez les guillemets. Regardez, il fait un signe de tête en direction de son petit-fils, ça le fait ricaner. Il me trouve idiot. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez ? C'est la vie. Alors, celui-là.
Alors, la fin, quand il meurt, il lègue son trois pièces au parti et il déshérite ses enfants.
Et alors,
le parti a tué sa femme, accessoirement.
Il a tué sa femme,
l'a torturée, l'a envoyée au front.
Il sait que c'est à tort. Il sait que c'est à tort. Et alors, c'est un passage intéressant.
Parce qu'ils se sont fait arrêter, sans doute, parce qu'on applaudissait le camarade Staline dans un théâtre depuis 15 minutes, et à un moment, ils sont rassis.
Lui,
c'est raciste.
Il est un des premiers à avoir arrêté d'applaudir au bout d'un quart d'heure.
Oui, au bout d'un quart d'heure. On lui a dit quoi, vous arrêtez de. Quoi, vous applaudissez pas le camarade Staline. Et donc il se relève et il applaudit. Il se demande s'il n'a pas été arrêté à cause de ça. Enfin,
et donc il sait. Et en fait, je trouve que là, c'est la génération pivot. Pour le coup, c'est vraiment la génération. C'est ceux qui ont servi de chair à canon et de piédestal à Staline. Parce que c'est lui qui est allé. Et derrière, il y a toujours ça, je trouve. C'est espèce de. Ce qui est fort dans le livre, c'est qu'effectivement, elle construit des témoignages comme ça, contradictoires. Il y a un autre moment. Alors c'est un ancien cadre du parti qui raconte et qui parle du stalinisme. Alors là on est dans le rétrospectif. C'était dangereux de toucher à cette construction stalinienne ou soviétique, appelez cela comme vous voudrez, mais en l'occurrence il n'y a plus de différence. Notre État a toujours fonctionné sous le régime de la mobilisation dès les premiers jours, il n'était pas conçu pour la paix. Encore une fois, vous croyez que nous n'étions pas capables de fabriquer des bottes à la mode et de jolis soutiens-gorge pour nos femmes ou des appareils vidéo en plastique? On aurait pu faire ça en deux temps, trois mouvements, mais nous avions un autre but. Le peuple, pour l'interrogation. Le peuple, ce qu'il attend sont des choses simples, des montagnes de pain d'épices et un tsar. Gorbatchev n'a pas voulu être tsar, il a refusé. Prenez Estine. En 93, quand il a senti vaciller son fauteuil de président, il n'a pas perdu le Nord. Il a donné l'ordre de tirer sur le Parlement. En 91, les communistes ont eu peur de tirer. Gorbatchev a abandonné le pouvoir sans verser de sang. Mais Estine, lui, il a fait tirer les tanks, il a provoqué un carnage. Eh bien, on l'a soutenu. Par sa mentalité, dans son inconscient, notre pays. Alors, c'est là où on touche. Bon, oui, c'est un personnage qui le dit, bien sûr, mais c'est un des personnages. Et voilà. Par sa mentalité, dans son inconscient, notre pays est un pays de tsar. C'est dans nos gènes. On veut tous un tsar Ivan IV en Europe, on l'appelle le terrible, qui a plongé les villes russes dans un bain de sang et a perdu la guerre contre la Livonie. On l'évoque avec effroi et admiration, comme Pierre le Grand, comme Staline. Mais Alexandre II, le libérateur, celui qui a aboli le servage, qui a donné la liberté à la Russie, il s'est fait assassiner. Un Vaclav Havel, ça peut marcher chez les Tchèques, mais nous n'avons pas besoin d'un Sakharov. Ce qu'il nous faut, c'est un tsar, un père. Qu'on l'appelle ça un secrétaire général ou un président, peu importe. Pour nous, c'est un tsar. Alors là, c'est le côté caricatural est restitué, parce que c'est pas, là, pour le coup, c'est brut de pomme. Mais c'est pas le propos qui se dégage de ça. Mais il y a effectivement, là, on est sur la génération. Alors, on est sur la génération qui a fait la guerre ou qui est dans cette mythologie-là. Cette mythologie dans cette histoire mythifiée, on va dire comme ça. Alors, ce qui est très intéressant, tu disais tout à l'heure, c'est ce qu'ils appellent la génération des cuisines. Oui. Alors ça, c'est l'autre génération, parce qu'il y a aussi ça. Il y a ce portrait des générations là qui est très émouvant, je trouve. Et ça, c'est la génération de ceux qui sont nés dans les années 60 et qui donc vont en fait avoir effectivement cette espèce de d'illusion que la chute de la Russie est en fait l'arrivée d'un socialisme à visage humain. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont intégralement câblés à la soviétique, mais ils sont idéalistes au sens sérieux du terme, c'est-à-dire que ils pensent qu'effectivement avec la chute
du capitalisme,
ils veulent pas du capitalisme et ils sont persuadés qu'effectivement la chute de l'URSS, c'est les Gorbatcheviens, on va dire, c'est les
Ça commence par des passages qui sont terrifiants, très drôles à côté On voulait la liberté, mais en fait, pour nous, la liberté, c'était du saucisson. Et on voulait du saucisson. Et maintenant, tout le monde a du saucisson. Alors, le saucisson revient tout au long du livre.
Ouais.
T'as remarqué la présence marquante du saucisson. Et les Russes reviennent toujours à ça. Genre, maintenant, on a du saucisson, mais il est nul.
Ouais, c'est la dialectique saucisson.
C'est la dialectique saucisson.
Alors, génération des cuisines, pourquoi ils disent ça? Parce que alors ça, c'est effectivement très touchant. Parce que, en fait, ils expliquent que la cuisine était le centre de l'appartement communautaire, le plus souvent. Et où, en fait, tout le monde passait la nuit, à boire, à fumer et surtout à discuter poésie, littérature, avenir du socialisme.
Avenir de la Russie.
Et sentiments aussi, parce qu'il y a effectivement littérature, tout est là.
À moi, il y a une femme qui dit à l'auteur, qui est à l'autrice, qui lui dit vous êtes de la génération des cuisines, vous, ça se voit tout de suite, comme moi, on a commencé à parler d'amour et puis on finit par. Et puis au bout de 5 minutes, on parle avenir de la Russie.
Et alors, eux, pour le coup, on peut dire, là, dans le livre tel qu'ils sont présentés, c'est ceux qui sont fracassés par la chute, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont un logiciel qui est intégralement idéal. Réaliste, généreux,
intégralement soviétique, l'homme est bon.
Voilà, et en fait en 91, ils ont 30 ans et en fait c'est déjà cuit pour eux, quoi. C'est-à-dire qu'en fait
ils peuvent pas s'adapter au nouveau monde.
Ah non, ils ont aucune chance de s'adapter, ils ont aucun cadre, aucune valeur, aucune pratique, aucune habitude, et donc ils vont se cracher. Alors il y a des témoignages assez touchants, et y compris sur ce qu'on disait, on disait ça un peu en antenne tout à l'heure. C'est vrai que nous on avait 10-15 ans sur cette période-là, donc les images elles sont encore très nettes, au moins sur la chute, Estine sur son char, le premier putsch, etc. En 91 donc. Et là, le fait de le voir raconté effectivement par des trentenaires de l'époque et du point de vue russe, ça je trouve que ça donne un espèce d'effet de... pour le coup, historique, c'est peut-être un des... C'est, historiquement, je trouve que c'est le plus convaincant. Ouais. Parce que là, on a des témoignages de ce qui se passe. Alors là, il y en a un, notamment, là, Anna Ilichnina, alors qui parle des journées de 91, donc au moment où, effectivement, Gorbatchev va chuter. On peut en rire de ces journées, hein, les traités d'opérette, dit-elle, le sarcasme, c'est à la mode. Mais à ce moment-là, c'était du sérieux, c'était sincère, tout était authentique et nous étions tous authentiques. Des gens sans armes se tenaient face à des tanks et ils étaient prêts à mourir. Moi, j'étais sur ces barricades, j'ai vu ces gens, ils étaient devenus tout le pays. De vieilles moscovites, des petites grand-mères, toutes frêles, nous apportaient des boulettes de viande, des pommes de terre chaudes, enveloppées dans des torchons. Elles donnaient à manger à tout le monde, aux tankistes aussi. Allez-y, mangez les enfants, mais ne tirez pas, vous n'avez quand même pas tiré. Les soldats n'y comprenaient rien. Quand ils ont ouvert les trappes et sont sortis de leur char, ils ont été abasourdis, tout Moscou était dans la rue. Les filles grimpaient sur les blindés, elles les serraient dans leurs bras, les embrassaient. On leur donnait des brioches. Des mères de soldats dont les fils étaient morts en Afghanistan pleuraient. Nos enfants sont morts en terre étrangère et vous voulez mourir dans votre propre pays ? Un commandant a craqué quand il s'est retrouvé entouré par des femmes. Il criait « Mais je suis un père moi aussi, je ne tirerai pas, je vous jure que je ne tirerai pas. Nous n'allons pas nous en prendre à nos propres peuples. » Il y avait des tas de choses drôles et attendrissantes à pleurer. Brusquement, on entend crier dans la foule « Est-ce que quelqu'un a du Validol ? Il n'y a personne qui se sent mal ?» On lui en a trouvé tout de suite. Une femme avec un bébé dans une poussette. « Si ma belle-mère avait vu ça, dit-elle, a sorti une couche pour une dessiner une croix rouge. Mais avec quoi ? Ben, quelqu'un a du rouge à lèvres ?» On lui a lancé des tubes de rouge à lèvres, du rouge à lèvres à bon marché, mais aussi du Lancôme, du Christian Dior, du Chanel. Personne n'a pris de photo de ça. Personne n'a immortalisé ces détails. Et c'est dommage, très dommage. L'harmonie d'un événement, la beauté, cela apparaît après coup. Les étendards, la musique, quand tout est coulé dans le bronze. Mais la vie, elle est faite de petits fragments, elle est sale, elle est mauve. Les gens passent la nuit autour d'un feu de camp, assis par terre sur des journaux, sur des tracts. Ils avaient faim, ils étaient de mauvaise humeur. Ils juraient, ils buvaient, mais personne n'était ivre. Certains avaient apporté du saucisson, du fromage, du pain, du café. On disait que c'était des directeurs de coopératives, des gens qui faisaient du business. Une fois, j'ai même vu quelques boîtes de caviar, elles ont disparu dans la poche de quelqu'un. On distribuait aussi des cigarettes gratuitement. À côté de moi, il y avait un gars avec des tatouages de prisonniers, un vrai tigre, des rockers, des punks, des étudiants avec des guitares et des professeurs. Nous étions tous ensemble. C'était le peuple, mon peuple. Voilà. Donc il y a toutes ces pages-là, effectivement, sur 91 qui sont assez, assez touchantes, je trouve. Et puis effectivement,
voilà, sur 91, parce que tu as aussi les vieux communistes qui disent ouais. C'était n'importe quoi, on a tout perdu, et en fait, il aurait mieux valu tirer sur le Parlement.
Ouais. Ah, bah, t'as une haine de Gorbatchev.
Oui. Ah, qui est terrible. Voilà, qui est un juif. Et de Raïssa Gorbatchev aussi, ça, la femme. Gorbatchev qui est haï aussi, et qui est une espèce de Marie-Antoinette. Enfin, elle est décrite par certains Russes comme une espèce de Marie-Antoinette qui aime la richesse, qui méprise le petit peuple et qui veut juste des palais en marbre.
Alors peut-être
un intermède, un interlude.
Un intermède avant qu'on passe au témoignage du bourreau là.
Ah ouais, celui-là il est dur celui-là. Ouais. Bon, un peu de musique. Piano piano. Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans dû ni maître ni publicité. C'est Jeudi Noir qui se poursuit pour sa troisième et dernière partie. Voilà, donc faut pas déprimer en nous écoutant parce qu'on est gentil et qu'on raconte des choses gentilles. Et là, on va vous parler donc de. Ah oui, la musique. Vous venez d'entendre CCP, Fedeli alla Linea, Militans. C'est un groupe, c'est donc un morceau italien. Et puis ensuite, un morceau états-unien de Sneaks, Red, ça vient de Washington. Voilà, donc on est dans le communisme et on vous parlait donc de Svetlana Alexievitch, La fin de l'homme rouge. Et on vous avait promis du sang et des larmes, et donc parce qu'on est gentil. Et voilà. Et là, bah, Jean-Mathias, t'as sélectionné donc des passages du témoignage d'un bourreau qui est rapporté par un ancien soviétique qui a émigré au Canada parce qu'il n'en pouvait plus. Et donc il parle de son ancien beau-père avec lequel il avait passé quelques jours au moment de la chute de l'Union soviétique. Et quand il comprend que son futur potentiel beau-père plutôt est un ancien tchéquiste,
lui-même. Bourreau. C'est l'effet poupée russe dont tu parlais tout à l'heure.
C'est ça, et lui-même était soldat en Afghanistan.
Lui-même était pilote de chasse en Afghanistan, et donc débauché par l'armée après la chute de l'URSS, et donc il va en fait sur des marchés, faire de l'import-export, puis finalement émigrer au Canada. Donc là on est sur une génération, c'est plutôt la génération des années 70 lui, hein, c'est-à-dire qu'effectivement il a un peu de résilience pour rebondir à la chute de l'URSS et trouver une reconversion après sa carrière de héros militaire en Afghanistan. Donc il arrive effectivement à débrancher au moins en partie, même s'il fume comme un pompier, nous dit-on. Et donc il nous raconte ça, cette espèce. Alors ça, c'est le passage. Mais en même temps, ça renvoie à des choses connues, mais tout ça pour dire qu'en fait, il n'y a pas d'arnaque. C'est-à-dire qu'on trouve ça aussi dans le livre et de manière assez glaçante, en fait, je dois dire, sur l'horreur en fait de la dictature stalinienne. Alors il raconte comment, effectivement, donc dans son entretien, il raconte comment il est tombé amoureux d'une jeune fille qui devient donc sa fiancée, et comment effectivement dans une soirée chez sa belle famille, il va se retrouver autour d'une vodka avec son futur beau-père
en tête à tête,
qui lâche un peu les chevaux. Alors il raconte ça comme ça, donc il dit voilà, donc c'est ça, il lui se présente, lui, il dit: moi je viens d'une famille soviétique ordinaire, on a toujours eu du mal à boucler les fins de mois, alors que, il parle de la belle famille, ils avaient des lustres en cristal, de la porcelaine chinoise, des tapis, des gigoulis flambant neufs, le grand luxe, ils avaient aussi une vieille Volga que le vieux, donc ça c'est le beau-père, ne voulait pas vendre, et ainsi de suite. Je vivais déjà chez eux, le matin on prenait thé dans la salle à manger, avec des porte-verres en argent, c'était une grande famille, avec des gendres, des belles filles, un des gendres était professeur, et quand le vieux était en colère, premier bug, quand le vieux était en colère contre lui, il répétait toujours la même phrase: les gens comme lui, moi je leur faisais bouffer leur merde. Drôle d'expression, à ce moment-là je comprenais pas. Hein. Puis un peu plus tard, alors il nous dit effectivement que c'est pas une image en réalité. Donc alors il se retrouve, la famille va se balader dans le village, et puis enfin une course quelconque, et puis donc il se retrouve en tête à tête avec le futur beau-père. Donc deux hommes dans une datcha vide, lui dit-il, avec une carafe de vodka. Mais j'en ai rien à foutre des docteurs. J'ai déjà vécu ma vie. Un peu de vodka, allez vas-y. Et il s'est lâché. J'ai pas compris tout de suite, j'ai pas réalisé tout de suite que c'était un prêtre qu'il aurait fallu ici. Parce que quand un homme pense à la mort, ça a commencé par une conversation habituelle de ces années-là, le socialisme, Staline, Boukharine, le testament politique de Lénine, que Staline avait dissimulé au parti, tout ce qui était dans l'air, dans les journaux. Bah, nous avions bu, et pas qu'un peu. Il se montait la tête tout seul, t'es qu'un petit morveux, t'as encore rien vu, je vais te dire une bonne chose, les Russes, faut pas leur donner la liberté, ils vont tout saloper, tu comprends? Et une bordée de jurons, un Russe ne peut pas essayer de convaincre un autre Russe sans jurer comme un charretier, je censure, rentre-toi bien ça dans le crâne. Moi, bien sûr, j'étais en état de choc. Il était déchaîné. Il faudrait les coffrer, les expédier sur des chantiers d'abattage, toutes ces grandes gueules avec des pelles et des pioches. Ce qu'il leur faut, c'est une bonne terreur. Sans terreur, tout va s'écrouler en un clin d'œil. Hein ? Et après, il raconte. Voilà, il raconte. Alors, donc ça, c'est le beau-père qui parle. Quand on m'a engagé au NKVD, service secret. J'étais tellement fier avec mon premier salaire. Je me suis acheté un beau costume. Bah, c'est un sacré boulot. On pourrait comparer ça à la guerre, mais la guerre, c'est reposant. Quand on tue un Allemand, il crie en allemand, tandis que cela, il crie en russe. C'était comme qui dirait des gars à nous. Bah, il était plus facile de fusiller des Lituaniens ou des Polonais. Mais ceux-là, ils hurlaient en russe, espèce de brute bornée, pauvre crétin, finissez-en au plus vite. Bordel de merde. Et nous, on était couverts de sang, on s'essuyait les mains sur nos propres cheveux. Des fois, on nous donnait des tabliers en cuir. Bah, c'était notre boulot, on était des fonctionnaires. T'es encore jeune, toi. La perestroïka. Tu crois tous ces beaux parleurs. Laisse-les donc brailler, la liberté, qui batifole un peu sur les places. La hache est toujours là. Une hache, ça survit à son maître. Et n'oublie pas ça, bordel de merde. Je suis un soldat, moi. On me donnait des ordres et j'obéissais, j'exécutais les gens. Si on t'en donnait l'ordre, tu le ferais toi aussi. Tu le ferais, nom de Dieu. Je tuais des ennemis, des saboteurs. Il y avait un papier officiel avec écrit dessus, condamné à la mesure suprême de défense nationale. Une sentence du gouvernement. Ah, c'était du boulot, je te dis pas. Si le type n'est pas tué sur le coup, il s'écroule, il gueule comme un porc, il crache du sang. Le plus désagréable, c'est de tirer sur quelqu'un qui rigole. Soit il est devenu fou, soit il te méprise. Les hurlements et les jurons, ça pleuvait des deux côtés. Il faut jamais manger avant de faire ça. Moi, je pouvais pas. Et on a tout le temps soif. On a envie de boire des litres d'eau, comme après une cuite putain de ta mère. À la fin de la journée, on nous apportait deux seaux, un de vodka et un d'eau de Cologne. La vodka, on nous la donnait après et pas avant. T'as lu le contraire quelque part? Ouais, et ben moi, je te dis qu'on raconte n'importe quoi maintenant. On se lavait à l'eau de Cologne jusqu'à la ceinture. L'odeur du sang est tenace. C'est spécial comme odeur. Ça ressemble un peu à l'odeur du sperme. J'avais un chien berger, et ben, quand je rentrais du travail, il s'approchait pas de moi. Nom de Dieu de bordel de merde. Mais pourquoi tu dis rien? T'es un petit genou, t'as encore rien vu. Tu sais, c'était rare, mais ça arrivait qu'on tombe sur un soldat à qui ça plaisait de tuer. On le retirait de l'équipe des exécutants et on le mutait ailleurs. On n'aimait pas les gens comme ça. Beaucoup étaient des gars de la campagne, comme moi. Ils sont plus solides que les gens de la ville, plus endurants, plus habitués à la mort. Il y en a qui ont déjà égorgé des porcs chez eux ou des veaux. Quant au poulet, ça, tout le monde l'a fait. La mort, faut s'y entraîner. Les premiers jours, on nous faisait regarder. Les soldats assistaient seulement à l'exécution, ou alors ils accompagnaient les condamnés. Il y en avait qui devenaient fous tout de suite. Ils supportaient pas. C'est pas évident. Même pour tuer un lièvre, il faut une certaine habitude. N'importe qui peut pas faire ça, bordel de merde. On n'obligeait personne à se mettre à genoux et on tire avec son revolver presque à bout portant dans la tempe gauche, près de l'oreille. À la fin de la journée, on a la main qui pendouille comme un vieux chiffon. C'est surtout l'index qui déguste. Nous aussi, on avait un plan à remplir, comme partout, comme à l'usine. Au début, on n'y arrivait pas physiquement. Alors ils ont fait venir des médecins, un conseil de médecins, ils ont décidé de faire des massages aux soldats deux fois par semaine. Des massages de la main droite et de l'index droit. Pour l'index, c'était obligatoire, c'est lui qui déguste le plus quand on tire. Moi, je suis resté un peu sourd de l'oreille droite, parce qu'on tire avec la main droite. Et il y a comme ça 10 pages, boum, boum, de techniques d'assassinat, bah... Enfin, c'est d'une brutalité assez dingue, en fait. Et là, effectivement, on a une espèce comme ça de tranche de couple, hein, enfin, dans la société réelle, je dirais, effectivement, avec des gens réels.
Ce que t'as pas dit, c'est que quand le bourreau là dit que au sujet de son gendre professeur, que les gens comme ça, il leur fait bouffer leur merde, c'est que le narrateur qui rapporte ce discours, l'ancien officier de l'armée rouge en Afghanistan, parle de son grand-père qui avait vu quelqu'un étouffé dans un seau d'excréments.
Oui, t'as un descriptif des tortures.
Et donc t'as une espèce d'effet d'écho, c'est-à-dire que quand il est jeune à ce moment-là, ouais, et qu'il écoute le discours de son potentiel futur beau-père, ça fait aussi écho à ce qu'a raconté son propre grand-père. Et t'as aussi tout un tas de passages qui sont assez terrifiants où les types racontent et disent « Oui, ma maman l'a dénoncé, ou mon grand-père a été dénoncé, il a fait 10 ans de camp, il est revenu, il était détruit, et il est retourné à l'usine, et en fait il est allé en face du gars qui l'avait dénoncé. »
Oui, c'est ça, bah, ça c'est vraiment...
Et puis ils discutaient, ils buvaient ensemble, parce que, au bout du compte, on savait que s'il nous avait dénoncé, c'est parce que, en gros, c'était lui ou nous, il fallait bien qu'il dénonce quelqu'un pour s'en sortir, et puis... Et qu'est-ce qu'on peut faire, quoi? Et donc là, il y a tout un jeu dans le roman qui pourrait être discutable, peut-être, faudrait voir, mais c'est peut-être un cas où c'est vrai. Il y a très très longtemps de ça, on avait rendu compte d'un livre de Charlotte Lacoste, Séduction du bourreau, ouais, où elle dénonçait dans la littérature sur le nazisme la confusion systématique entre les bourreaux et les victimes, sur le mode de les victimes pourraient être des bourreaux, les bourreaux auraient pu être des victimes, etc. etc. Et elle dit que dans le cas du nazisme, c'est faux. Dans le cas de l'Union soviétique,
c'est une vraie question.
Ouais, une vraie question. Parce que très très fréquemment, effectivement, là, le gars qui parle, là, le bourreau, quand il revient de la guerre, il va directement en camp et il va y passer 10 ans avant d'être réhabilité. Et donc, on peut supposer que lui-même a été torturé, selon toute vraisemblance. Donc il était immonde, ensuite il a été torturé, il était en camp, il est revenu, il a eu une place. Bon, c'est un monde qui est complètement inimaginable en fait, et incompréhensible. Ce qui fait écho d'ailleurs à ce que dit le vieux Bolchot, qui dit vous ne pouvez pas nous comprendre parce que vous n'étiez dans la religion.
Ouais.
C'est une des explications les plus les plus sensées que je trouve à ce système qui me semble absolument dément en fait de l'extérieur.
Alors peut-être un dernier mot quand même, parce que là il va falloir qu'on rende l'antenne, mais c'est un des aspects aussi très intéressants. Bon, on aura peut-être l'occasion d'en reparler parce que le livre est tellement riche. C'est tout ce qui concerne, on l'a évoqué tout à l'heure, en fait les républiques soviétiques orientales. Et ce qui se passe au moment de la dislocation de l'Empire soviétique en réalité. Et ça, c'est très instructif, je trouve, parce qu'effectivement, il y a, alors c'est l'aspect effectivement fragmentation d'empire avec une espèce de fraternité complètement mythique hein, en partie effectivement, mais qui en même temps avait des relais institutionnels et qui a assuré une espèce de, comme il y a eu la Pax Romana, il y avait la Pax Sovietica, quoi, je sais pas comment faut dire, mais il y a quelque chose comme ça. Effectivement, à partir du moment où l'Union se disloque, eh bien en fait, effectivement, c'est les pogroms, c'est les massacres intercommunautaires,
interreligieux,
et ça c'est très 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 frappant. Il y a plusieurs témoignages là-dessus. Ça, je trouve que c'est assez rare en fait, hein, parce que c'est des documents qu'on ignore complètement. Et il y a aussi une plongée dans le Moscou d'aujourd'hui, qui est donc l'ex-capitale de l'Empire, et dans laquelle effectivement émigrent en fait tous les sans-papiers tchétchènes, ouzbeks, tadjiks en quête d'argent. Et là, pour le coup, on a les damnés de la terre, mais dans les grandes largeurs, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, eux arrivent avec un logiciel qui est un logiciel plus ou moins hérité en fait, hein, de Moscou comme capitale, effectivement comme leur capitale d'une certaine manière, et en même temps ils arrivent dans un truc qui n'est plus en fait la capitale, parce que la Moscou elle-même est disloquée et en proie assez largement aux mafias et au capitalisme sauvage, le plus sauvage. Et eux, ils vivent dans les box souterrains, dans les caves à 15. Alors il y a des témoignages là-dessus. Et ils se font péter la gueule par des skinheads poutiniens, ils se font tuer par la police, ils meurent sur les chantiers. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose dont on parle absolument jamais ou très rarement. Hein,
pas ma connaissance en tout cas. Mais...
Et c'est toute cette espèce de main-d'œuvre sans pape, quoi. Pour le coup,
interne à l'Empire,
mais c'est un empire colonial en même temps, hein. C'est un empire colonial, mais c'est une colonisation très particulière, puisqu'effectivement c'est une colonisation égalitaire qui a fait ça. Donc il y a ces pages là-dessus, donc surtout sur la fin du livre. Donc ce qui fait aussi, je trouve un des intérêts du bouquin, donc que vraiment on recommande, avec avec les points d'interrogation.
Les points d'interrogation, plutôt les critiques, oui. C'est un bouquin qui m'a fait une grosse claque.
Oui, c'est à lire. Hein. De toute façon, c'est un...
Donc c'était, redis le titre.
Donc on vous a parlé de La fin de l'homme rouge, donc récit publié en 2013, hein, c'est par Svetlana Alexievitch. Aux éditions Actes Sud, collection Babel.
Édition Actes Sud, collection Babel.
Voilà, donc La fin de l'homme rouge, Svetlana Alexievitch. Et on vous dit salut pour aujourd'hui et rendez-vous dans 15 jours. Voilà.
Et puis maintenant une rediffusion de Entre chien et loup.
Radio Pékin. Ici, Radio
Pékin. Des sciences de la nature comme d'une arme dans leur lutte pour la liberté.
Libéralisme dans les organisations révolutionnaires fondées sur le principe de la collectivité est extrêmement nuisible.
Il y a deux communismes. Un communisme dangereux et un communisme
pas dangereux. Le libéralisme dans les organisations révolutionnaires fondées sur le principe de la collectivité est extrêmement
nuisible. Ici, Radio Pékin.